la pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Calade. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Cette émission est dédiée aux mamans pour parler sans tabou sur des sujets en lien avec leur maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de donner la parole aux femmes et aux mères pour leur permettre de se libérer de leur vécu. Chaque semaine, nous accueillons une maman ou une femme pour témoigner en direct ou alors de manière anonyme et nous échangeons autour de son expérience. Aujourd'hui sera une émission exceptionnelle puisque ce sera un simple échange entre Lucille et moi. Je suis Elodie Doula, sous le nom de Doucela, et je suis accompagnée donc de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance. Bonjour Lucille, comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour, ça va très très bien. Et ben oui, comme tu le dis, c'est une émission un petit peu particulière parce que ben en fait, on est toutes les deux et c'est vrai qu'on a l'habitude, on s'est dit hors antenne qu'on allait laisser la parole aux mamans et que bon bah du coup, c'était peut-être exceptionnel et on s'est dit mais en fait, nous aussi on est maman. Nous aussi on a des choses à dire en fait.
Et on en a tellement parce que à toutes les deux, on a quand même sept enfants.
Oui, on a quand même sept enfants.
Il y a de quoi faire.
Et on a
dont une belle fille.
Dont une belle fille pour moi. Et en plus, on a souvent du mal à couper nos conversations,
oui.
Même après antenne. Donc, je pense que c'est bien aussi qu'on puisse en faire profiter un petit peu tout le monde. Et toi, t'arrivais avec un sujet qui était quand même assez particulier et qui, moi, aiguise ma curiosité et plein de choses, qui est le fait de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'agrandissement de sa famille, c'est-à-dire faire ou pas un autre enfant après le troisième, voilà, parce que c'est quand même ça. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Alors, pour que vous sachiez pourquoi je trouve que c'est intéressant, parce que moi, je suis maman donc de 4 enfants et d'une belle-fille. Donc, ça fait 5. Et Elodie, tu as déjà
3 enfants.
Donc,
exact.
Voilà. Et donc, là, c'est la grande question qui se pose, et je pense que certaines doivent se le poser à l'antenne, c'est est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il y a une notion de bien ou de pas bien lorsque du coup on décide d'avoir un autre enfant encore? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que maman de famille nombreuse? Et puis, quand on a envie d'avoir un autre enfant, il y a aussi l'histoire avec le partenaire et le coparent.
Tout à fait.
Et son accord ou pas possible aussi dans l'histoire. Enfin bref, tout plein de choses qu'on avait envie de vous partager ce matin. Je vais te laisser du coup me dire un petit peu, Elodie, toi, ce que tu en penses, parce que c'est toi qui as porté le sujet sur la table.
Exactement. Alors, en fait, ce sujet vient d'une discussion que j'ai eue avec mon conjoint hier, parce que moi, depuis très longtemps, je dis que j'aimerais avoir 4 enfants. Lui, il n'avait pas forcément de... Enfin, voilà, il se laisse un peu porter. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a quand même 3 enfants à rapprocher qui nous demandent énormément d'énergie. Lui, il se rend compte que il manque d'énergie. Moi, ça ne m'arrête pas pour autant. Et donc, voilà, hier, on discutait et je lui expliquais que oui, je veux un quatrième. Mais pour le moment, c'est pas une envie viscérale comme j'ai eu pour mes 3 enfants. Et peut-être que cette envie viscérale ne viendra jamais, et peut-être qu'un jour elle viendra, je ne sais pas, enfin voilà. Et donc du coup, on en est venu à dire, et si jamais mon envie viscérale arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, et donc du coup, moi je me suis posé la question, est-ce que c'est légitime une femme qui se sépare parce que son compagnon n'a pas envie d'avoir un enfant? Pourquoi elle devrait freiner son envie pour rester avec son compagnon, enfin voilà, tout plein de questions comme ça qui se posaient. C'est vrai que il y a eu un petit peu d'incompréhension et voilà. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Pourquoi ce sera encore à la femme en fait de faire l'effort de se priver. Enfin, pour moi, j'y vois comme une question de liberté aussi. Alors certes, il y a de l'amour. Aujourd'hui, la question ne se pose pas.
Rassurant quand même ton conjoint, quand même déjà juste à l'antenne. Parce que dans un mois, il va entendre quelque chose de très particulier.
Non, parce qu'on en a discuté. On a un couple qui discute énormément. Et voilà, c'est ce qui nous aide aussi beaucoup dans notre quotidien. De toute façon, on ne le dira jamais assez. La discussion, le dialogue, c'est la base d'un couple. Donc, on en a discuté, mais voilà, moi, je me suis quand même posé cette question. Pourquoi en 2025, on est encore là, hein? Ok, il y en a, le conjoint ne veut pas d'enfant, c'est à la femme de se freiner dans ses envies. Et pourquoi ce ne serait pas l'inverse, quoi, à un moment donné? Et pourquoi elle ne serait pas libre, de prendre une autre voie dans son couple, quitte à quitter son conjoint et puis trouver une autre personne avec qui elle pourra vivre cet équilibre qu'elle a besoin, quoi.
Alors, ce que tu soulèves là-dedans, c'est super intéressant. Alors, il y a plusieurs mots, moi, qui, tu sais, j'adore quand ça vient chatouiller mon oreille comme ça, qui sont viscérales.
Oui.
Déjà, je trouve ça très, très intéressant. Vissard, viscéral, viscère, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que, du coup, on est drivé par quelque chose qui est finalement plus fort que nous. À la fois, ça rattache aussi au côté biologique, physiologique, et encore une fois, peut-être instinctif, même si je pense que, du coup, là, c'est pas vraiment une histoire d'instinct, mais c'est réellement une histoire de besoin. Oui. Pour ne fâcher personne sur l'instinct, parce que ça, sinon, ça fait des lustres qu'on discute de l'instinct, pas d'instinct et compagnie. Je pense que c'est juste une question de besoin.
Oui.
À un moment donné, c'est un besoin, et je ferai le distinguo entre le besoin et l'envie. D'ailleurs,
oui, qui sont deux choses différentes.
Qui sont bien deux choses différentes. Le besoin est rattaché à la pyramide de Maslow sur les besoins fondamentaux qui vont après partir. Je ne sais pas si vous voyez cette pyramide qui augmente, et qui fait que, du coup, au départ, on a une base de besoins fondamentaux. Hein, le premier étant l'attachement, et qui fait que, du coup, on va se sentir en sécurité. Si cette base-là est assez saine et construite correctement avec les liens d'attachement primaire, on continue de se construire avec ces besoins-là. On se construit de manière équilibrée. S'il y a un petit truc qui cafouille à un moment donné, eh bien, on peut développer certains biais, certaines choses qui vont nous amener à aller chercher les besoins dans le monde extérieur, ou alors à marcher un petit peu de guingois, et ça risque d'être un petit peu compliqué. Si je fais le distinguo entre les besoins et l'envie, c'est que l'envie n'est pas freinée par quelque chose. C'est que même s'il y a un petit caillou dans la chaussure avec l'envie, on va quand même pouvoir passer l'obstacle. Par exemple, si vous êtes en train de lire un passage d'un livre et qu'il est plus ou moins ardu, mais que vous avez envie de le terminer, vous allez passer outre cet élément-là, aller chercher une solution, un dictionnaire ou quelque chose pour pouvoir passer la difficulté de la barrière langagière. Mais si c'est de l'ordre du besoin, et que, du coup, vous avez besoin de lire quelque chose qui est lié peut-être à une difficulté, parce que dans l'expérience vous avez des difficultés de lecture ou ce genre de choses, et bien là ça va être très compliqué, ça va se transformer en obstacle. Un obstacle n'est pas insurmontable, mais lorsqu'il est drivé par un besoin, et ça devient très compliqué, et ça peut devenir une souffrance. Voilà, c'est pour ça que, du coup, je trouve que le mot viscéral, lorsque tu le dis, est très intéressant, parce que là j'amènerais peut-être la question de: est-ce que c'est, du coup, un besoin, ou est-ce que c'est une envie?
Ouais.
Ça repose la question du désir.
Exactement.
Et donc du manque, parce que le besoin drive aussi les désirs et les manques. Voilà.
Exactement.
Donc, qu'est-ce que c'est ?
Je sais que de par mon vécu, où j'ai eu des carences affectives, hein, clairement, sur lesquelles je travaille encore.
On travaille toute sa vie.
je fais le choix de continuer à travailler autant que besoin pour mon bien-être, en fait, ma santé mentale. Donc je sais d'où vient ce besoin viscéral. Et c'est ce que je dis, étant donné que je travaille sur mes traumas, peut-être que ce besoin viscéral, pour le moment, c'est une envie. Peut-être que ça ne se transformera jamais en besoin viscéral. Mais voilà, étant donné qu'on n'est pas dans le futur, je ne sais pas du tout comment les choses ont évolué, et peut-être que j'arriverai à trouver mon équilibre au sein de ma famille, comme on est en train de le construire actuellement. Aujourd'hui, mon équilibre, pour moi, il est juste parfait. Mais voilà, après, je suis quelqu'un qui aime anticiper beaucoup les choses, donc voilà.
J'ai et te besoin. Projeter et tout, ouais, ça. Tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant aussi, dans le sens où... tu es en train de travailler sur quelque chose. On travaille tous sur quelque chose. Je travaille aussi sur mes propres peurs et compagnie. Il n'y a pas de problème là-dessus. On n'est pas sur une émission qui va vous juger sur le fait que vous soyez en train de travailler sur vous-même.
On a tous notre cheminement, en fait. Et c'est OK, on ne chemine pas tous au même rythme. Je sais qu'avec mon conjoint, on en discute énormément parce que moi, je chemine assez rapidement et que parfois, j'ai besoin de le brusquer parce que j'ai l'impression que je vais trop vite par rapport à lui.
Oui, puis c'est un sentiment de sécurité aussi.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est OK. Je sais qu'il chemine aussi, pas au même rythme, mais il chemine. Et ça nous permet de garder cet équilibre-là qu'on a dans notre couple. Mais voilà, encore une fois, chacun chemine à son rythme. Et à mon sens, c'est important de cheminer pour son bien-être.
Oui, ça, je pense que c'est super important. Et de bien comprendre que, effectivement, peut-être que ça n'évoluera jamais vers quelque chose. Et je te souhaite que ça ne devienne pas un besoin viscéral non plus. Parce que ça veut dire que j'ai tendance à appeler les besoins un petit peu les drogues. C'est-à-dire que du coup, on va aller chercher à l'extérieur sa drogue. Et si on n'a pas sa drogue, du coup, on va se transformer un petit peu en personne addict. Et donc, du coup, peut-être avoir des comportements associés qui vont être délétères pour notre environnement et pour nous-mêmes. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait de nourrir ses propres besoins, de les comprendre, de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit de cette manière-là, pourquoi est-ce que, du coup, on a telle émotion qui est accrochée, telle pensée, et donc quel besoin. Et en fonction de nos valeurs, en fonction de notre expérience, en fonction de notre éducation, OK, on essaie de réajuster. Donc, ce que tu dis sur le fait que tu as un besoin, mais que, du coup, ce besoin-là, ben, il ne va peut-être pas être viscéral, j'espère que ça ne va pas arriver au point où ça va être viscéral et où, du coup, là, effectivement, comme tu le disais, ben, on peut être amené à quitter la personne parce qu'on a ce besoin qui est beaucoup plus fort que tout. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de le comprendre aussi dans ce sens-là, de pourquoi est-ce qu'on peut être amené à quitter quelqu'un aussi si du coup, il n'y a pas d'enfant qui arrive par la suite.
Exactement.
C'est que peut-être que là, à ce moment-là, bon, déjà, il y a peut-être une difficulté de communication. Et comme tu le dis, toi, du coup, vous communiquez énormément. Moi, avec mon conjoint, c'est pareil, on communique énormément. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas à avoir 4 enfants comme ça sans avoir communiqué.
Oui, c'est sûr.
C'est quand même très compliqué parce que, c'est-à-dire, une fois, tu peux ne pas faire exprès. 2, 3, 4 fois, quand même, c'est que du coup, on est à peu près d'accord sur la ligne de conduite. Donc, c'est déjà important de communiquer, important de connaître les besoins respectifs des uns et des autres, important aussi de comprendre le chemin unique et l'expérience vécue par l'un et par l'autre, sa propre histoire, pour pouvoir se dire oui ou non, on y va. Mais du coup, je comprends aussi les femmes qui auraient envie de faire autrement et qui partiraient. Mais dans ce cas-là, bien faire attention à ce que leurs besoins ne se déplacent pas non plus sur l'enfant à terme.
Exactement.
Parce que le besoin, lorsqu'il est viscéral et qu'il se déplace, c'est très compliqué. Ouais. On peut le déplacer sur le conjoint, on peut le déplacer sur l'enfant, on peut le déplacer sur les autres enfants, ou alors on peut faire un transfert, en fait. Et ça va être très, très compliqué d'apprivoiser les émotions qui sont à l'intérieur. Et en plus, on est dans une super société qui adore parler des émotions.
Ouais,
qui
exactement.
Quand je vous dis le mot émotion, je suis sûre que vous adorez ça. Genre, il n'y a pas de problème. Alors, la joie, je suis sûre, vous allez me dire, ah, la joie, c'est génial.
Oui, mais la joie, OK.
Voilà.
Elle est OK, mais il ne faut pas qu'elle soit trop bruyante. Quand
mais
même.
Pas exubérante. voilà, parce que sinon, après, ça peut être vu comme de la prétention. C'est très compliqué.
C'est ça.
En fait, vivons nos émotions comme on peut et comme on veut déjà aussi. Et ça va nous nourrir.
Sentons-nous libres.
Sentons-nous libres et je pense de comprendre que la première chose à libérer, c'est les émotions et à intégrer. Parce que tant qu'il n'y a pas d'intégration émotionnelle, eh bien, on va avoir des difficultés à se construire, à créer des relations, à contribuer aussi à la société. Et moi, ce que je vois, c'est que des fois, il y a une négation des émotions des uns et des autres qui fait qu'après, on n'arrive pas forcément à se construire sereinement avec les autres parce qu'on va toujours avoir une interprétation et compagnie. Et je trouve que là, en plus, tu vois, sur le sujet que tu soulèves, l'interprétation de ce que l'autre peut dire par rapport à oui ou non à un autre enfant ou alors de la famille aussi.
Oui.
Sur vous avez encore, mais pourquoi ? Pourquoi un autre enfant ?
Ouais, exactement.
Franchement, déjà deux, c'est bien. Parce que un enfant unique, c'est compliqué parce que le pauvre, il va être tout seul. Mais deux, c'est pas mal, c'est bien, c'est équilibré. Si en plus, c'est un garçon et une fille, c'est le choix du roi. J'ai jamais compris cette cette phrase.
C'est bon, vous avez le choix du roi.
Bah, le choix du roi. Moi, à chaque fois, je vois Louis XIV en train de danser et je fais, ah, c'est super, mais je ne comprends pas. Du coup, quel roi? Qui décide de quoi? Qui décide de quoi? Moi, je suis très contente d'avoir fait un être humain qui a deux pieds, deux jambes, deux bras et qui respire, en fait. Voilà. Et qui est vivant. Donc, je me fiche complètement du sexe de l'enfant.
Oui, comme si c'était un choix qu'on faisait nous, en fait. Non,
oui, et ça induit d'autres choses au niveau biologique. Ouais. Dire que, tu vois, il y a le choix du roi. Qu'est-ce qui est sous-entendu là-dedans aussi? Qui va déterminer le sexe ou pas de l'enfant? Est-ce que le ventre est trop haut? Est-ce qu'il est trop bas? Comment est-ce qu'elle le porte? Enfin, il y a toujours cette espèce de regard extérieur sur comment se développe la vie à l'intérieur de la femme. Et je pense que ça fait partie aussi des grands, grands questionnements qui font qu'on peut en être aujourd'hui là, dans notre société, sur les questions de la femme et de l'enfant. Mmh. Mais aussi du père, aussi, de sa place aussi. Parce que j'entendais une émission avec Marie Ndiaye ce matin, qui parlait justement du bon père. Et c'est Sartre qui disait qu'il n'y a pas de bon père. Mais comme il n'y a, et chez Winnicott, il y aura le rôle de la mère suffisamment bonne. Ouais. À un moment donné, ce genre de choses, c'est très compliqué. Et je pense que dans ces trucs-là, il faut faire très très attention à ce qui peut être renvoyé par l'extérieur et aux interprétations qu'on va pouvoir avoir dans le couple aussi.
Oui.
Et ce que ça va générer en tension chez nous. Comment toi, tu l'as vu avec ton chéri?
Franchement, honnêtement, après, voilà, il me dit, franchement, je ne comprends pas ton discours. Mais voilà, je lui ai juste dit, en fait, c'est une question aussi de liberté. Pourquoi ce sera encore une fois à la femme de se sacrifier? Parce que l'homme décide. Enfin,
moi, tape du poing sur la table.
Voilà.
Et puis,
moi, je l'ai vécu comme ça, dans le sens où, parce que monsieur veut pas, du coup, la femme, elle doit freiner ses envies, ses besoins. Et c'est assez drôle parce que du coup, hier, il y a eu une émission sur Zone Interdite qui parlait de la parentalité, donc l'évolution de la parentalité. Et du coup, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il il parlait de l'évolution des droits des femmes. Et donc, au début de l'émission, ils expliquent l'évolution des droits à l'avortement, des droits à la contraception. Et ils interrogeaient un couple et donc la femme expliquait qu'elle n'avait pas de contraception. La journaliste lui demandait pourquoi, et elle a répondu « parce que mon mari ne veut pas ». Donc déjà, waouh, choc pour moi. Entendre ça, je pense qu'en 2025, entendre « mon mari ne veut pas que je prenne la pilule », ça passerait pas du tout. Sauf que là, ça paraissait mais tellement naturel.
Ça passe sur Zone Interdite.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça passe un peu partout, sur les réseaux quand même. On le voit maintenant avec le mouvement aussi des Tried Wife et compagnie. Alors si on est vachement sur ce sujet-là avec Élodie, c'est aussi parce qu'on est en train d'écrire un livre.
Exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet, parce que je me suis dit que ce serait un bon tremplin aussi pour vous parler de ce beau projet de livre. Et donc, du coup, voilà, donc la journaliste interroge la femme et après, elle interroge le mari en disant « Mais pourquoi vous ne voulez pas que votre femme, elle prenne la pilule ?» Parce que ça lui laisse des choix. Et donc, la journaliste lui demande « Et vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs ?»« Oui, j'ai peur. » Comme si la contraception empêchait la femme d'aller voir ailleurs.
Lui permettait d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que du coup, en fait, là, si on essaie d'analyser un petit peu ça, de quoi est-ce qu'il a peur? C'est
que sa femme lui échappe.
Que sa femme lui. Alors, il y a une notion de propriété.
Oui.
Donc, ça, c'est ce qui te pique toi en fonction de tes besoins.
Ouais.
Mais lui, son propre besoin à lui. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on peut rentrer dans la tête de tout le monde si on arrive à comprendre et à analyser, et même des personnes où on se dit. Jack l'Éventreur, j'ai pas du tout envie de rentrer dans sa tête. Mais n'empêche que c'est important et c'est intéressant pour éveiller et aiguiser notre intelligence empathique. C'est-à-dire que ce monsieur-là, lorsqu'il dit ça, c'est ce qui... Moi, j'entends l'enfant
qui est en insécurité,
qui a peur, pas pour sa masculinité.
Ouais.
Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il a juste peur parce qu'il se sent peut-être pas suffisamment aimé, peut-être parce que... Il a peut-être manqué de ça lorsqu'il était enfant.
Pour remettre dans le contexte, c'est un couple des années 70 qui ont eu une éducation où les enfants étaient quand même assez vite autonome. Enfin, il montrait dans l'émission un enfant de 7 ans qui allait faire les courses, quoi.
Ouais, ouais.
Mais pour moi, ce serait inimaginable aujourd'hui.
Alors, c'est inimaginable dans notre société, mais dans plein d'autres sociétés. Ouais. Enfin, moi, je sais, pour avoir été dans une éducation mixte, multiculturelle, je veux dire, du coup, à 7 ans, je me débrouillais.
Non, mais voilà.
Alors, j'allais pas jusqu'au magasin toute seule, mais du coup, je me débrouillais quand même.
Est-ce que quand même, ça laisse pas aussi petit? Est-ce que ça laisse pas, après voilà, c'est des interprétations que je fais de ce reportage que j'ai vu, mais justement le fait d'être autonome aussi petit, est-ce que ça ne laisse pas aussi une certaine forme de manque affectif, de manque d'attention?
Oh, j'adore ces questions-là, j'adore ces questions-là. Parce que là, il y a deux choses pour moi qui se mélangent, c'est l'autonomie et l'individualité.
Ouais.
C'est-à-dire que peut-être que dans ma manière de voir les choses, je pense qu'on a un peu trop poussé les enfants, et on le voit maintenant sur certaines générations, à être individualistes et pas autonomes.
Ouais.
Et autonomes sur tous les aspects du spectre, c'est-à-dire même émotionnel. Et on se retrouve avec des gens qui sont amputés émotionnellement, et c'est de ça qu'ils ont manqué. C'est pas parce que tu vas aller faire tes courses à 7 ans que du coup tu vas forcément être dans un manque ou être trop vu comme un adulte.
Sûr.
Parce que tu n'es pas un adulte.
Après, c'est l'environnement qu'il y a autour. C'est vrai que, faire des...
Tu mets une plante n'importe où et tu vas voir un petit peu comment est-ce qu'elle pousse si elle est dans un environnement délétère.
Oui.
Et tu comprendras tout de suite que du coup, c'est pas possible. Mais je pense que pour si on reprend cette histoire avec cet enfant-là, même s'il prend des responsabilités, même s'il prend d'avoir certaines tâches, déjà de un, je pense que dans la manière de lui expliquer, c'est qu'on lui explique que plus tard, il va pouvoir faire ça tout seul, il va pouvoir se débrouiller aussi tout seul. Mais se débrouiller tout seul, c'est pas être tout seul dans la solitude, isolé de la plus grande solitude, 100% genre super seul. Et qui, pour moi, correspond à l'individualisme, c'est-à-dire je me suis fait toute seule, je me suis construite toute seule. On entend ce genre de discours. Moi, je me suis fait toute seule, j'ai besoin de personne. Et ça, c'est un mensonge. Tout le monde a besoin de tout le monde.
Oui, oui, oui. C'est physiologique.
Le lien, le côté interpersonnel, on a tous besoin de tout le monde. Donc, c'est impossible de grandir de cette manière-là. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens ne sont pas bien dans leur peau. C'est que, du coup, quand il y a besoin de solidarité, besoin de lien, ils sont extrêmement esselé. Alors que l'autonome, c'est quelqu'un qui va être capable de dire « Je suis capable de faire ça, j'arrive à aller jusqu'à ce niveau-là, mais là, je pense que j'ai besoin d'aide. » Donc, voilà. Du coup, je vais essayer de faire ça. C'est un petit peu le truc qui était important pour moi de décortiquer. Je te propose qu'on passe à un petit peu de musique.
Ouais, hein, allez, très bien.
Et puis après, on terminera un peu tranquillement. Allez, c'est parti.
Écoute mon frère, t'as pas de frère, t'es fils unique. Ah, si j'avais un frère, une soeur et un père. Avec des si, on mettrait pareil en beauté. Avec des si, on parlait les abeilles. Avec des si, on mettrait pareil en beauté. Avec des si, on parlait les abeilles. Moi je suis né dans la cité, ou si t'es pas blanc, t'es un immigré. Combat la degré, tu vends bon gré malgré, on traite d'assister. Si t'es pas content, tu peux gratter. Mais je veux gratter plus loin. Tomber la couche de vernis qui pourrit le poil de le rendre joli. What? Toi-même, tu sais que la vie n'est pas gay. Faut que tu rames dans ton canoë. Faut que t'écopes, faut que t'écopes. Dans le kayak et percé. Percé cheveux, je veux pas continuer. Mieux de s'entraîner, mieux de s'entraîner. Ouais, vive les grillons. Moi je j'aspire à mieux meilleur, dans un monde meilleur. Des femmes en tailleur comme un baby love my fire. Je veux du ciel bleu, sans artifice, de superficiel. Me donne la jeunesse, me frie les vaches en voyant arriver avec le teint rose et la démarche d'un homme en pleine santé. On le traitait comme des vaches, par les vaches et chichi. C'était toi et ma, je fais pas de chichi. Les chichis et les chouchous à la plage, ça va. Mais quand c'est tous les jours, je préfère le cha-cha.
Calade, ma radio.
Vous écoutez La Pause Maternelle sur Calade, votre rendez-vous maternel mensuel tous les premiers lundis de chaque mois. Donc avec Lucille, on était en plein échange sur, sur les femmes, la liberté des femmes, l'évolution des droits des femmes aussi. Et voilà, on expliquait que dans l'émission de Zone Interdite, on voyait que les hommes, ils avaient du mal avec la liberté des femmes. Et que, juste avant la pause musicale, on parlait d'un petit garçon qui faisait ses courses tout seul, qui faisait son repas tout seul, il avait aux alentours de 7 ans. Et donc, je voulais préciser que c'était une famille des années 70. 70, on sort de mai 68, la libération, la libération, si on peut appeler ça, les femmes prennent leur liberté. Donc voilà, elles prennent leur place dans la société en tant que femmes travailleuses aussi. Donc voilà, et moi ce que ça me renvoie, c'est qu'elles sont un peu passées de rien à tout, dans le sens où avant ça, elles étaient mères au foyer et uniquement mères au foyer. Et d'un coup, elles vont travailler, elles sont au service de la société. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit déséquilibre. Et ça a pris du temps, au final. J'ai l'impression que ça commence que maintenant, où les femmes, elles arrivent peu à peu à trouver un équilibre entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et encore, quand je dis équilibre...
Ouais.
Ça reste encore un équilibre très fragile.
Je trouve qu'il y a deux choses là-dedans que tu as dites. C'était, du coup, au départ, c'était une femme au foyer. Elle était au service de sa famille. Et ensuite, elle a pris donc un travail et elle a été au service de la société.
Ouais.
Et c'est au service d'eux. Donc,
elle reste au service de quelque chose.
Elle reste au service de quelque chose parce que peut-être qu'on est aussi un petit peu éduqué dans cette idée-là que la petite fille, elle doit être bien sympa, elle doit dire des jolies choses, il n'y a pas de gros mots qui passent dans sa bouche, il n'y a pas de... Voilà, c'est aussi contre ça qu'en 68, pas que, qu'on soit bien d'accord, il y a quand même tout un contexte économique.
Oui.
Il ne faut pas non plus résumer à ça. ce serait bien dommage. Mais dans la manière qu'on avait d'éduquer les petites filles et de leur expliquer les choses, et ça reste encore un petit peu pardon, sur le côté où on peut avoir cette idée de la liberté, mais continuer à être au service d'eux, et ça crée des difficultés dans le fait de se dire, tiens, j'ai l'impression de gagner en liberté, mais c'est une fausse liberté, c'est un leurre, parce qu'on se rend encore une fois au service d'eux. Et j'ai l'impression que depuis le confinement, il y a des choses qui ont changé.
Oui.
Aussi.
Notamment, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat.
C'est ça.
Pour une autre forme de liberté.
C'est ça. Mais du coup, alors, on choisit sa forme de liberté parce que la liberté pure, réviser les bacs de philo, mais n'existe pas.
Exactement.
On est toujours dans une forme de cadre quand même et on choisit le cadre qui est le plus adapté à notre situation, à notre unicité. Donc du coup, le fait de choisir l'entrepreneuriat ou de choisir le salariat, en fait, de juste choisir déjà.
Oui.
Juste d'avoir ce courage-là dont parlait Adler, de choisir. C'est pas la possibilité, c'est le courage de choisir.
Quelque chose.
Parce qu'à un moment donné, on peut être devant n'importe quelle situation. Encore une fois, on revient sur les besoins et les envies. À partir du moment où on fait ce choix-là, on commence à visualiser les différents obstacles qui vont se mettre en face de nous et à se dire, je prends cette décision-là.
Mmh.
Voilà. Qui peut être plus ou moins difficile, plus ou moins en souffrance, plus ou moins... OK, voilà, juste en fonction de notre vécu et en fonction, encore une fois, de nos besoins, ça peut être plus ou moins difficile aussi de les appréhender. Donc, je dis ça parce que ça peut être très compliqué à voir et à imaginer dans plein d'autres situations. Et je sais que dans plein d'autres contextes, ça peut être très compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'on parle de choix, on vous met un pic ou on vous attaque ou quoi que ce soit. C'est simplement une question de...
Après, il ne faut pas oublier que les choix qu'on fait... sont en lien aussi avec le cheminement qu'on fait.
Exactement.
Et encore une fois, rappelons-le, on chemine tous et toutes à des niveaux différents, en fait, à un rythme différent. Et un choix que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, peut-être que dans un an, 5 ans, 10 ans, vous aurez cheminé. Parce que même si on n'en a pas conscience, on chemine quand même. Eh bien, peut-être que dans quelques années, vous pourrez enfin faire ce choix parce que le cheminement aura été fait.
Oui, c'est ça, c'est de comprendre qu'on n'est pas figé non plus dans une dynamique. Ce n'est pas juste « Ah ben moi, je suis comme ça et puis pas autrement ». Non, vous pourriez être autrement, vous pourriez faire évoluer la machine, le véhicule humain dans lequel vous êtes tout entier, hein, corps, âme et esprit. Vous pouvez le faire évoluer parce que peut-être une rencontre, peut-être un mot, peut-être une expérience dans votre histoire va vous faire cheminer, bifurquer en fait, prendre une autre trajectoire tout simplement. L'histoire est remplie de personnes qui prennent des trajectoires différentes aussi. Je pense que ça rejoint aussi cette idée-là de lorsqu'on a envie d'avoir un enfant ou lorsqu'on est en train de réfléchir à ça, de se dire que rien n'est figé. Moi, je me suis dit quand j'avais 11 ans que du coup j'aurais 4 enfants. Il se trouve que j'en ai 4 parce que je suis une tête de mule, mais ça ne veut pas dire que du coup j'ai eu envie d'avoir 4 enfants. Tout le temps. J'ai eu envie à une certaine époque, parce que ça marquait mon histoire et que pour moi, ça symbolisait pour moi la famille voilà, construite et l'amour aussi qu'on pouvait y recevoir. Mais quand j'avais la vingtaine, je n'avais pas forcément envie d'avoir 4 enfants là tout de suite. J'avais envie de construire une relation. Alors, attends, j'avais quand même envie d'avoir déjà des enfants. Ouais. Hein, voilà, parce que je n'ai pas tardé non plus. J'en ai eu à 23 ans. Donc, j'ai pas tardé. Mais juste, j'avais envie aussi de construire une relation qui soit saine avec de la communication. En sachant qu'on arrive tous plus ou moins dans des relations qui peuvent être compliquées, déterminer c'est pas une relation toxique ou quoi que ce soit, enfin voilà, avancer, cheminer, c'est déjà pas mal, se comprendre soi-même dans la vingtaine alors qu'on est en pleine ébullition, en pleine effervescence de toutes plein de choses qui se passent dans nos vies en fait, parce que on sort du giron parental pour ensuite vivre un petit peu et vivoter notre vie d'une certaine manière
en pensant que c'est la liberté
parce que du coup, on se dit, waouh, c'est ça la liberté, je fais qu'est-ce que je veux quand je veux. Non, en fait, il y a un cadre, ouais. Mr. and Mrs. Donc, en fait, il va falloir comprendre le cadre dans lequel tu évolues. Et puis après, vers le milieu de la vingtaine, se dire, ce cadre dans lequel j'évolue, est-ce que vraiment il me correspond? Et à 30 ans, on fait, ouh, là, je crois qu'il y a un bilan. Et en général, on fait, oh, c'est la crise de la trentaine. C'est pas une crise, c'est un bilan. Ouais. Tu fais le bilan de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et tu en fais des bilans assez réguliers. Et il se trouve qu'à faire un bilan peut-être à 30, peut-être à 40, ça va être, je pense, assez merveilleux. D'en faire un à 50 et puis souvent il y en a un vers 70-80 où là moi, en général on débride un peu et on se dit non là en fait je vais vivre aussi pour moi. On peut le faire aussi un petit peu avant et donc se poser aussi ces questions. Et je trouve que la tienne sur le fait de devenir maman de vraiment famille XXL, parce que après c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est un choix qui apporte plein de questionnements dans le couple. Ça, on l'a vu. Questionnement de perception de soi au milieu de la famille, en sachant que ce que je vous dis, un truc, un spoiler alert, tout ce que les gens vont vous dire sur le fait que vous ayez des enfants vous-même, en plus qu'il y en ait 2, 3, 4, 5, 6, moi j'ai une amie qui en a 7.
Ça parle sur eux.
En général, quand une personne vous parle, elle parle d'elle.
Oui, exactement.
En général. Donc en fait, quand elle vous dit « Ah, oh, mais du coup, ça fait beaucoup !» Peut-être que toi, tu n'en aurais pas autant.
Ouais.
Ah, mais moi, franchement, autant d'enfants, c'est quand même compliqué, quoi. Non, toi, tu as l'impression que tu n'arriverais pas à assumer cette tâche-là d'avoir plusieurs enfants. Ouais, non, mais attends, mais bravo, hein, parce que franchement, assumer tout ça, mais assumer quoi? Ils grandissent, hein, donc du coup, c'est pas que des bébés qui sont là. J'ai pas 4 bébés, ouais. J'ai 4 enfants. Et je trouve, moi, dans la conception, c'est que des fois, on va me dire, waouh, t'es une maman super courageuse, parce que quand même, 4 enfants... Mais il y en a une qui a 12 ans, ma belle-fille qui a 20 ans, donc qui, concrètement, on ne la voit pas, on veut dire, enfin, je veux dire, elle fait sa vie, quoi. Donc, elle nous appelle voilà, pour certains trucs et surtout savoir comment ça va et comment elle fait sa vie d'adulte. Mais en gros, non, on n'a pas forcément plus de nouvelles que ça. Celle qui a 12 ans, bah, elle grandit bon an, mal an, donc en fait, elle devient de plus en plus autonome. Son frère la suit. Et puis, en fait, il me reste les deux petits choubidous, en fait, du départ, que j'appelle la nurserie. Et donc, du coup, la nurserie, c'est jusqu'à 7 ans. C'est pour ça que ça me fait rire ce que tu disais sur le petit oui. Enfant qui va au magasin. Parce que moi, de 0 à 7 ans, ils sont en mode nurserie. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est là qu'il va y avoir les peurs, les terreurs nocturnes, les difficultés, la la complexité aussi des émotions, la coloration des émotions et tout ça. Donc du coup, je sais que là, il y a vraiment besoin d'être là au niveau des besoins sécuritaires. Et puis qu'après, après 7 ans, en général, il y a autre chose dans la personnalité. Il y a la construction, moi, de ce que j'appelle du personnage public, qui fait que du coup, on commence à comprendre que les autres nous regardent et à agir différemment. On a toujours besoin de notre base sécuritaire, mais on va commencer à se déployer à l'extérieur. Enfin bref. Je parle beaucoup. Ouais. Et heureusement, vous verriez dans le studio, il y a Élodie qui est là.
On
genre,
se fait des gestes.
Elle me fait des gestes comme ça, me fait des warnings. Et moi, je pourrais partir longtemps. Il faudrait qu'on fasse une émission spéciale. Votez sur Radio Calade pour faire une émission spéciale de la pause maternelle.
Exactement.
Parce que 30 minutes, c'est court. C'est très, très court.
Comme à chaque fois, on va vous proposer un bonus parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc, on va clore l'émission. Sur les derniers mots de Lucille. Et pour ce nouveau format, n'hésitez pas à nous faire vos retours, ce qui nous permettra justement d'adapter l'émission à ce qui vous plaît.
Si vous voulez 3 heures, vous le dites.
N'hésitez pas, on en serait capable.
Une nuit de la pause maternelle, lorsque vous êtes en insomnie, on sera là.
On est habitué à ne pas dormir la nuit, hein, donc tranquille. Sinon, voilà, on se retrouve comme chaque mois, le premier lundi de chaque mois, de 10h à 10h30, sur Calade Ma Radio. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse de l'émission lapausematernelle@outlook.fr. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver. Donc, pour Lucille, je te laisse donner tes réseaux.
Oui, alors vous me retrouvez sur Facebook et sur LinkedIn. Alors sur Facebook, c'est Lucille Laisson-Naissance, tout simplement. Et sur LinkedIn, c'est aussi Lucille Laisson-Naissance. Vous me trouverez, il n'y a pas de problème. Et mon site internet, c'est Laisson-Naissance, donc Laisson-Naissance, naissance au pluriel, .com. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir le truc pile poil pour pouvoir cliquer, ben vous avez nos informations en fait directement sur le site de Radio Calade.
On met toutes nos informations sur le site de Radio Calade. Et moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc doucela.fr, et sur Instagram, elodie.doucela. On se retrouve donc dans le bonus. La pause maternelle.